העניין בתורה עברית היא תורה אורל, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. זה סוג'י פונדמנטל. Sans la compréhension, sans l'étude de Torah écrite et de la Torah orale, évidemment, on n'a pas compris la Torah. Les deux Torahs, les deux sujets, se complètent d'une façon que c'est pas que ça c'est la moitié, ça c'est l'autre moitié. Une moitié sans l'autre moitié, ça ne marche pas. Quand il a une voiture, quelle partie de la voiture est plus importante? La partie devant ou la partie derrière? Alors on va prendre un couteau, on va couper une voiture en deux, et on va voir à combien de mètres celui-là il va rouler. Une voiture peut rouler 300 000 km. Si on la coupe en deux, elle peut rouler 150 000 km. Elle ne roulera même pas un mètre. Or, si on la met sur une benne, on mettra la cage. Bien sûr, il faut bien comprendre, il y a une Torah écrite, il y a une Torah orale. Ce sont deux façons. Il y a l'oral, il y a le parler, il y a lui, et il y a les yeux pour voir, lire un texte, comprendre un texte, saisir un texte. Il y a deux façons, et il faut les deux façons pour le saisir. Comme tous les livres d'ailleurs, entre autres, on va en classe, à l'école, le professeur il a un livre, livre de géographie, ou de mathématiques, ou de physique, ou d'histoire, ou n'importe quel sujet, un professeur, il y a un livre, le livre c'est un support, pour pas que le cours il sera que oral, pas un support, un livre, mais évidemment, si le livre suffit, on n'a pas besoin d'école, on n'a pas besoin de professeur, on n'a que le livre et ça suffit. Et pour ton voir, chaque école, chaque classe, il y a un professeur, il y a un... Pourquoi c'est ainsi? Parce qu'un enseignement, à plus forte raison, un enseignement qui n'est pas simple, un enseignement qui est riche, un enseignement qui est large, qui est étendu, qui est profond, qui contient des multiples facettes et compréhensions, plus votre raison quand c'est très profond, il faut, pour pouvoir saisir cet enseignement, différents supports, différentes façons. Comme l'homme il a des yeux, on a des oreilles, il y a des choses qu'on entend, il y a des choses qu'on voit. Quelqu'un qui est aveugle, il lui manque beaucoup. Quelqu'un qui est sourd, il lui manque beaucoup. Même ce qu'on voit, si on n'a pas des oreilles, c'est difficile à saisir. On marche dans la rue avec des yeux sans oreilles, des fois on n'entend même pas qu'un mot tout vient. Au contraire aussi, on a des oreilles, on ne voit pas, on ne saisit pas les choses. Ça, c'est même des choses qu'on peut sentir avec les mains. Mais comprendre quelque chose, un sujet, bien sûr, pour saisir la chose, il faut plusieurs sens. Il faut faire activer plusieurs parties du cerveau. Il faut plusieurs aides pour saisir cet enseignement. Ça, c'est le phénomène de Torah Shebichtav, Torah Shebaalpé. Il y a une Torah écrite, Moshe Rabbeinu, il a reçu une Torah écrite. Ça veut dire quoi, il a reçu une Torah écrite? La Kadosh Baruch Hu lui a dicté un texte. Le texte, Hamishé, Humshé Torah, la Torah de Moshe. Comme on disait, ça commence par Bereshit Bara Elohim, ça finit, les Ene Kol Israël. À la fin des 40 ans, Akadosh Baruch Hu lui a dit chaque mot, chaque lettre qu'il faut écrire, et Moshe Rabbeinu a écrit ça dans une Sefer Torah. On peut croire que c'est tout, ça y est. Si j'ai lu ce texte, si je traduis ce texte, ça y est, je connais la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Il n'en est rien. ce qui connaît les textes de Thomas, ne croit rien. Quelque chose, oui, c'est quelque chose. Mais ce n'est pas seulement une petite chose. On a dans ce texte un aperçu global de ce qui est la Torah. Mais en vérité, 99% n'est pas écrit. En tout cas, n'est pas écrit de façon qu'une simple lecture me le fait comprendre. Et à 99% ou 99,9% qu'il faut extraire de ce texte, il faut réfléchir sur ce texte et il faut avoir des interprétations parce que le texte, il l'interpelle. Et quand l'homme il est seul, évidemment, ça va nous prendre peut-être 50 000 ans, peut-être 100 000 ans pour tout extraire de ce qui est dans le texte. Et en effet, des milliers et des milliers de très grandes personnalités se sont pressées sur ce texte-là et ils ont reçu une aide pour comprendre comment ça fonctionne. La Torah orale, elle est très très large. Et nous allons voir comment d'une façon harmonieuse ces deux Torahs, ces deux enseignements se complètent. Ils font de la sorte que, et on peut le lire, pour lire la Torah écrite, il faut la Torah orale. Pour que la Torah orale tienne sur quelque chose, il faut une Torah écrite. Et on va essayer d'expliquer ça. Ça c'est le fondement de la Torah, c'est le fondement du judaïsme. Et tous les gens qui font exprès, ou sont faire exprès, ils passent à côté de la compréhension qu'un sur l'autre ne tient pas, bien sûr chacun seul, les gens qui ne comprennent pas ça, ils n'ont rien compris. Pour eux, le judaïsme, c'est une religion étrangère. C'est quelque chose comme pour les Européens, le bouddhisme. C'est pas là-bas. En Chine, ils ont des religions, mais on ne sait pas exactement. Il y a beaucoup de gens, et malheureusement, des gens qui se donnent un air, ils se donnent un look d'être des connaisseurs du judaïsme. Et ils parlent même des discours, il y a même à Paris, des chercheurs de CNRS. J'ai entendu déjà des gens comme ça là-bas parler. C'est dans le but de connaître la Torah, et d'être des grands spécialistes. Et c'est des amarachim, des améliorants, tout ça. Mieux, dès que vous n'aurez pas étudié la Torah écrite, sans la Torah orale, c'est Arabia, et que des contresens. Nous allons voir pourquoi c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est un texte? Vous savez, on connaît cette histoire, il y a des trois goyim à l'époque des Hillel et Shammai qui sont venus chez Shammai et Hillel et ils ont demandé qu'on les convertisse. Parmi ces trois convertis, il y avait un goy qui est venu chez Shammai et dit: bonjour monsieur le rabbin, je voudrais me convertir. Ah bon? Oui, mais je n'accepte que la Torah écrite et pas la Torah orale. Alors Shammai lui a dit: vous pouvez sortir monsieur. C'est comme quelqu'un qui vient concessionnaire de Renault: je voudrais acheter une voiture, mais vous me donnez seulement la partie gauche, pas la partie droite de la voiture. Ici dans un garage, allez-y dans le magasin de fou. La voiture, quoi. Il y a la carrosserie sans pied dedans. Monsieur, c'est pas le temps. Il est venu chez Hillel. Hillel, il a dit d'accord. Mais il faut étudier la Torah écrite. Il faut étudier. Oui, d'accord, je suis d'accord d'étudier. Alors, tu veux commencer à étudier. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait? On va prendre d'abord Aleph Bet. Alors, ça, c'est un Aleph. Il écrit Aleph. Oui, on fait Aleph. Ça, c'est un Bet. Et ça, c'est une Gimel. Et lui a appris tout ça. Il dit: demain, on va faire le deuxième cours. Demain, il arrive, il est dit: on va réviser ce qu'on a fait hier. Donc ça, c'est un bête, ça, c'est un coup. Je dis: non, non, monsieur, c'est pas un bête. Ah non? C'est quoi? Ça, c'est un Aleph. C'est ça? C'est un bête? Non, non, non. C'est un coup. Monsieur, est-ce que vous dites que ça tient? Ça, c'est un bête? Évidemment, c'est ça. Dites-le vous-même, vous l'avez dit hier. Et moi, je le dis. Mais toi, tu ne veux pas écouter ce que la Torah orale, ce que les rabbins disent. Tu veux lire le texte. Toi, tu acceptes ce qui est écrit, tu n'acceptes pas ce qui est oral. Alors, tu n'as rien dit. Alors, vas-y. Alors, c'est bon. C'est bien. Il s'est converti. Il a accepté la Torah écrite en oral. Qu'est-ce que cette anecdote nous apprend? Que, évidemment, un texte écrit, sans qu'il y ait un maître à côté qui te dit, mais ça c'est à l'FCB, on ne peut pas lire. C'est évident. Mais même quelqu'un dit, j'accepte que le maître me dit c'est Aleph B. Et maintenant il peut déjà comprendre la Torah, même si c'est Aleph B. C'est pas encore quel le sens du mot. Et un mot n'a pas qu'un sens, il a plusieurs sens. Et encore la grammaire. Et même si on connaît le sens des mots, quel est le sens de la phrase, et comment il faut traduire, maintenant on vient de faire, il y a des mots A et I, O, mais ce n'est pas dans la Torah. Dans la Torah, c'est marqué une femme qu'elle a accouchée, le Sam A, c'est vous A, Yim, Kenidata. Elle est impure, si elle a accouché une fille, elle est impure pendant 2 semaines, chez vous A, Yim. Elle est impure 2 semaines, chez vous A, Yim, chez vous A, chez vous A, Yim. Mais on peut lire dans la Torah, Shim, Yim, elle est impure 70, elle est impure 70 jours, elle est impure 70 mois. Elle a un peu 70 ans. C'est 70 minutes. C'est ça, qu'est-ce que c'est? Alors, il faut que le maître dise que ça s'appelle Shvuahim. Il faut lire Shvuahim. La lecture de chaque mot, savoir lire. Il faut savoir lire et après pour comprendre le sens de cette phrase. La Torah nous dit, il faut faire la fête de Sukkot. Chag Sukkot, Ta'aseh Lecha Shivat Yamim. 7 jours, tu fais la fête de Sukkot. Mais c'est quoi Sukkot? Si on n'a pas de maître, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Alors c'est quoi? Kaban. Ah, c'est la fête de la cabane. Très bien. C'est quoi une cabane? La fête de la cabane. Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette cabane? Comment on fabrique une cabane? Quelle espèce de cabane? On ne sait pas quelle espèce de cabane. Quelle hauteur? Quelle épaisseur? Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette cabane? Alors, il y a une Torah orale. La Torah nous dit qu'il faut mettre des tfilines sur la tête. Elle ne me dit pas qu'est-ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut que je mette sur la tête? Mettez des tfilines sur la tête. C'est quoi tfilines? Et vous écrivez les tfilines. Mais j'écris quoi? Chaque mitzvah et mitzvah que la Torah elle a donné. Ah, évidemment, ces conditions. Alors qu'est-ce que c'est exactement la Torah? La Torah écrite. La Torah écrite, c'est un texte condensé des mots comme en sténographie qui font allusion à des concepts qui contiennent des concepts. Et évidemment, ils sont beaucoup plus larges que les mots même. La Torah nous dit, ce qui transgresse le Shabbat, Kola Osebo Malaha, Yuma, chacun qui travaille, il mourra. Chacun qui travaille, Shabbat, il mourra. Qu'est-ce qu'on appelle un travail? Qu'est-ce qu'on appelle un travail? Est-ce qu'un travail, c'est porter 30 kilos, 20 kilos, 10 kilos? Pour moi, porter c'est 20 kilos, c'est lourd. 10 kilos, c'est pas lourd. Il y a d'autres, pour eux, 30 kilos, c'est pas lourd. Il y a pour d'autres, 3 kilos, c'est lourd. Alors, ça veut dire quoi, travailler? Chacun a sa façon. La Torah nous dit qu'on est condamné à mort. Imaginons-nous quelqu'un qui a le permis de conduire ici en France. Alors, voilà, vous voudrez faire le permis. Eh bien, le permis, bon, prenez la voiture, je vous apprends. Il dit, il faut faire le code aussi. Le code, c'est quoi le code? Ah, il y a des films, des machins, des trucs. Je dis, écoutez-moi, n'apprenez pas le code. Je vous dis simplement, roulez avec la voiture comme il faut rouler. Si vous transgressez, on vous enlève le permis. Si je transgresse quoi? Si vous transgressez, c'est à vous de comprendre. Si je transgresse, si je suis alcoolé, on m'enlève le permis. Si je roule trop vite, tout le monde appelle permis. C'est quoi trop vite? Combien c'est trop vite? Alcoolique. C'est quoi alcoolique? Un verre? Un peu plus? Un peu moins? Ça veut dire quoi? Je dois respecter qui? Les autres. Ça veut dire quoi? Il y a à gauche, il y a à droite. Il y a... Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va vous punir. Vous allez en prison si vous transgressez. Mais quoi? Dites-moi exactement quoi. Ah ben, si c'est grave, vous allez 3 années en prison. Si c'est pas grave, vous allez 3 semaines en prison. Si c'est moins grave, vous payez 130 euros. C'est quoi grave, c'est pas grave? Je sais pas. Eh bien, il y a un code. La Torah nous dit, tu travailles Shabbat, tu mérites la mort. Mais travailler, mais dites-moi, qu'est-ce qu'on appelle travailler? Et la Torah nous raconte, il y avait un juif dans le désert qui quoi? Qui ramassait du bois. Il l'a amené chez Moshe. Et Moshe, il a dit, on va téléphoner à Hachem, il a téléphoné, ah oui, il faut le lapider. On l'a lapidé. Eh monsieur, moi je ne savais pas que ramasser des bois, c'est... Ramasser des bois, c'est tellement grave. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramassé du bois. J'ai un peu de bois. J'ai construit une maison. J'ai pas coupé un arbre. Oh, il ramassait des bois, je veux savoir. Ah, il va les comprendre. Eh bien, elle est bonne cela. Il fallait comprendre comment je sais comprendre. Donc bien sûr, quand la Torah nous dit ne travaillez pas Shabbat, c'est un mot. Comme dans un livre de mathématiques, il y a des principes. Et après c'est beaucoup plus. On va à l'école, on fait économie. On fait économie en quatrième, en troisième, en seconde, en première. Après il y a d'autres écoles. Alors on apprend en Italie, on cultive, je ne sais pas quoi, 50 000 tonnes de tomates par mois. Bon, mais après, il y a d'autres, on donne des petites notions. Et après, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Chaque chose, il y a un monde entier derrière. Les oignons sont comment fabriqués, une dans l'autre. C'est plus grande. La chokma de la Torah, la sagesse de la Torah, c'est quoi? À Kadesh Baruch Hu, il donne une loi qui est très large, qui est très riche, qui est très détaillée, et que pour comprendre, il faut des années. Et le simple, il peut dire, alors je ne sais même pas comment commencer. C'est tellement large, comment je vais commencer? Alors qu'est-ce qu'on fait comme à l'école? Il y a un livre quand on a 13 ans, quand on a 15 ans, il y a un livre déjà, géographie, on sait déjà comment est le monde. Et après il y a plus et plus et plus en détail. Alors à Kadosh Baruch Hu, il a écrit un livre, il a dicté un livre à Moshe, où un enfant de 10 ans peut connaître la Torah d'Arajusra. Il a ici un livre où il y a l'histoire, où il y a tous les dogmes de la théologie, la pratique juive, et dedans condensé. On a un aperçu sur tout ce qui est important. C'est plus profond que ça. Tous les détails qui existent dans la pratique, tous les détails de tous les dogmes, et toute la philosophie, en tous ces détails, se trouvent dans ce même texte, si on fouille plus profond et plus profond et plus profond dans chaque virgule qui est dans la Torah. La chokhma de la Torah, ça c'est d'ailleurs, entre autres, une des preuves irréfutables, hein, que la Torah vient du ciel. De la même façon, maintenant on vient de faire Parshat Bahar Bechukotai. Tous. Bahar commence comment? Et d'abord Hachem et Moshe. Bahar Sinaï les morts. Toujours la Torah commence, va et d'abord Hachem et Moshe les morts. Sauf ici, va et d'abord Hachem et Moshe, Bahar Sinaï les morts. Et Dieu parla à Moshe au Har Sinaï. Quoi? Qu'est-ce qu'il lui a dit? La mitzvah de Shemitah. 6 années on travaille en Eretz Israël, et la 7e année, on laisse la terre sans travailler. Pourquoi pile pour la mitzvah de Shemitah, la Torah dit clairement que quoi? Que c'est au Sinaï qu'Hachem lui a donné la mitzvah. Mais évidemment, toute la Torah a été donnée au Sinaï. Pourquoi on nous parle de la mitzvah des Shemitah? Pour nous apprendre comme la mitzvah des Shemitah a été dit au Sinaï, comme ça le reste de la Torah a été dit au Sinaï. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pshat, il est... Moshe Rabbeinu lui a dit, 6 années, vous allez semer. 6 années, vous allez récolter. La 7e année, ni on va semer, ni on va arroser, ni on va maçonner. Alors comment le peuple va vivre la 7e année? Qu'est-ce qu'on va manger? Et qu'est-ce qu'on va manger la 8e année? Aujourd'hui, il y a des bateaux, des avions, effectivement, on peut importer, exporter. Mais à l'époque, il n'y avait pas des bateaux comme ça. Toute une population du nord au sud, personne ni tomate ni céréales, comme on a eu toute une année. Et après la Torah nous raconte, tu comptes 7 fois 7 ans. Ça fait 49. Et la 50e année, c'est l'année des Yovel. Qu'est-ce qu'on fait Yovel? Ni on sème, et ni on récolte. Alors la 49e année, c'est Shmita. La 50e année, c'est Yovel. Ça fait 2 années, ni semer, ni récolter. Alors comment on va vivre? Alors la Torah nous raconte, si vous posez la question, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Alors la Torah nous raconte, les tzivitiet birkati bashana hashashi. Et je vais ordonner la bénédiction la 6e année, va satet et toi les 3 shanim. Si vous décidez d'appliquer la Shmita au 7e année coûte que coûte, je vous fais croire que la 6e année, ça pousse 3 fois plus. C'est-à-dire le fait que chaque année, il plante, il a recolté 10 tonnes de tomates. La 6e année, il a quoi? 30 tonnes. Sans ajouter plus de... quoi? Il en a 30. Celui qui cueille 30 tonnes de pommes, la 6e année, il a 90 tonnes. Tout le pays du Nord aussi. Extraordinaire. Comment c'est possible? Et chaque 6 années, la même histoire. Et Yovel, Shmita, Adashana, Tchivit. La 6e année, la 48e année, il pousse pour la 48e, pour la 49e, pour la 50e, et c'est la 51e, parce qu'on n'a pas planté la 50e. Ça nous montre que quoi? Que celui qui a donné la mitzvah de Shmita, c'est celui qui a créé le monde. Ça ne peut pas être autrement. La mitzvah de Shmita nous montre que quoi? Que la religion juive, ce que Moshe Rabbeinu il a dit, ça vient du Sinaï. Moshe ne l'a pas inventé. La mitzvah de Shmita est la preuve que la Torah vient du ciel. Il n'y a que celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui fait actionner la terre, il peut harmoniser la loi que la 7e année on ne travaille pas, ce-même, il fait, tu crois que ça pousse la 6e année. La mitzvah de Shmita vient du ciel, évidemment. Et donc, le reste de la Torah aussi, parce que Moshe Rabbeinu, il a dit tout, je vous dis tout, minashamayim. Et le Shmita, vous pouvez le vérifier. Vérifier que la Torah vient du ciel, évidemment. La Torah, elle est tellement riche. La Torah orale est tellement grande et profonde. Que le génie de la Torah, il est qu'on trouve la Torah orale dans le texte. Qui est tellement court. Chaque phrase, chaque formulation de la Torah, comment les phrases sont l'un avec l'autre. Quand on regarde, on réfléchit, on pose des questions, on questionne le texte, et on trouve des réponses logiques, et bien on voit qu'est-ce que ce texte contient, un œuvre divine. On ne peut pas calculer tous ces calculs. On regarde le Chumash avec Mefarshim, des milliers de Mefarshim. Et chaque rab dans n'importe quelle synagogue, Shabbat, il fait un drasha, il pose des questions, il donne des réponses. Et dans le monde entier, il pose des questions, des millions de questions, des réponses, des belles réponses. Génial, comment ça correspond avec l'autre, et tout est tout dans ce texte. Ça, c'est l'œuvre divine, Mirtav, Mirtav Elohim, ou Harut al-Haluchot. La Torah, c'est une œuvre divine qui est un texte malgré qu'il est court et malgré qu'il est compréhensible à chaque enfant. Ça, c'est aussi encore plus le génie. Dans la mathématique, quand Einstein il a écrit sa mathématique, vous donnez à un enfant de 11 ans, il lit là-bas la théorie de relativité du latin. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends ce qu'il raconte. Un enfant qui a 7 ans, on lui donne comment faire racine carrée. C'est racine, racine, c'est racine. Un carré, c'est un carré. Cherche-moi la racine carrée de... Je ne comprends pas de quoi on parle. Saccage, il a... Et chez nous, les enfants, les crétons, ils comprennent. Mais le plus grand génie font le même test. Et qu'est-ce qu'il va dire ce test? Plus, et plus, et plus, et plus. On entend une symphonie de Beethoven. C'est simple, la 16e symphonie de Beethoven est très belle, je vois. Qui les joue. Mais celui qui a quoi? Qui a l'oreille parfaite, il entend quand il fait avec le truc. Puis celui-là, il a fait ici encore une demi-note. C'est un joueur exceptionnel. Ah, il a mis ici. Tu as entendu ça, là? Moi, j'ai entendu, mais plus que l'oreille est fine, il entend une musique dans une musique. Il a des dents encore, encore et encore et encore. Ça dépend ce qu'il y a l'oreille fine. On regarde un tableau. On voit un joli tableau. Ce qui a l'œil habitué, un peintre, il va regarder un tableau de Rembrandt, vous avez déjà vu, pas dans le... Pas une photocopie. Ah, une photo. Voilà, comment s'appelle la... Comment s'appelle la femme là qui...
La Joconde.
Quand on la regarde dans le livre, une photocopie, c'est une chose, mais quand on le regarde le vrai, c'est autrement. C'est autrement. Et plus qu'on a l'œil habitué, on voit le fiction. On voit le génie du peintre. Évidemment, c'est ça la Torah. La Torah, c'est Birtav, Torah, c'est Birtav, ça va ensemble. Pourquoi la Torah n'était pas écrite entièrement? On aurait pu écrire tout. Mais on ne peut pas tout écrire. Pourquoi on ne peut pas tout écrire? D'abord, c'est beaucoup trop long. C'est à l'infini. Mais il y a des gens qui comprennent vite. C'est lourd de lire un texte trop long. Il y a des gens qu'on a besoin, ils ont besoin plus. Donc il faut un texte qui ne décourage pas les gens d'étudier et que pour certaines personnes, ils comprennent tout de suite. Donc ce texte court suffit. L'autre, il a besoin plus. D'après ce qu'on a besoin, on a besoin d'un enseignement oral. Mais bien sûr, d'abord, il y a un enseignement oral. Qu'est-ce que c'est une soukha? Non, mais là, c'est toute la halakhot. Une soukha doit être grand comme ça, avec combien de murs il y a. Ça se trouve tout dans les textes. Chaque drasha que Chachamim prend est déduit du texte avec des règles très précises. Et ici, on va expliquer la Torah orale vient d'où? Qui a inventé la Torah orale? A inventé. Ici, c'est d'un côté ce que nous les juifs nous disons, et de l'autre côté les ignorants dans le monde qui parlent dans l'air sans connaître le sujet. La Torah, il faut savoir, la Torah écrite a été donnée à Moshe. Hashem dit, « Vayichtov Moshe et kol divrei ha-Torah hazot al ha-sefer at-tumam. » Et Moshe, il écrit toutes les paroles de la Torah sur le parchemin at-tumam jusqu'à la fin. Vayichtov Moshe sefer abri, vayikra Moshe sefer abri. Bien sûr, sefer ha-Torah hazé, en fait dans Kumash, Moshe a écrit la Torah dictée par Hashem. La Torah orale aussi, Moshe l'a reçue, pendant les 40 jours qu'il était au Har-Sinaï. Hachem lui a raconté la Torah orale. Moshe qui belle Torah, mais Sinaï. Moshe a reçu la Torah. Qu'est-ce que les Juifs ils ont fait pendant les 40 ans?
La
40 ans, ils étaient dans le désert. Hein, ils se faisaient que bronzer là-bas. Bon, il fallait sortir chercher le man, il fallait le montrer. On les mettait dans le four, faire des bons gâteaux, et le Shabbat, il fallait faire des couscous. Mais, là, qu'est-ce qu'ils ont fait 40 ans? Alors, chaque jour, Moshe Rabbeinu a fait un shiur Torah. Moshe Rabbeinu l'a enseigné, les Juifs se sont mis autour de lui. Et Moshe Rabbeinu a appris un morceau. Il a pris une mitzvah, le texte, et après, la Torah orale. Ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, 40 ans, tous les Juifs, ils ont étudié la Torah orale. Pas seulement les 70 Chachamim autour de lui, tous les Juifs, ils ont étudié. 40 ans, ils ont étudié. Après, Moshe qui bel Torah, Mishinaï, on sera le Yoshua, ne veut pas dire seulement Yeshua, évidemment tous les juifs, mais Yeshua c'est quoi? Celui qui était... C'est tout. Yeshua les Zkenim, les Zkenim les Nevi'im, les Nevi'im les Sura, l'Anshe Knesset Agdoula. Il y a une des tragédies dans le monde non juif, et malheureusement dans une partie du monde juif aussi, qui s'imagine, qui prétend, qui induit d'autres en erreur, qui essaye d'induire d'autres juifs en erreur, qui essaye d'induire les goyim en erreur, que la Torah orale, qui était écrite après, le résumé était écrit dans la Torah, ça, c'est l'œuvre des rabbins. C'est une œuvre qui est intervenue plus tard dans l'histoire. C'était dans l'époque des rabbins du deuxième temple, ou après, c'est eux qui ont inventé une discussion, une technicité de la loi, et ils ont fabriqué le judaïsme. Mais le judaïsme biblique, c'est un autre judaïsme. Alors, cette idée de vouloir séparer la Torah écrite, la Torah orale, elle ne vient pas qu'aujourd'hui. C'est vieux comme le monde. Ça existait déjà à l'époque de la Gemara aussi. Et l'histoire a toujours démontré, toutes les époques, dans tout le pays du monde, et tous les gens qui disaient la Torah écrite, j'accepte, la Torah orale, non, à la fin ils ont rejeté la Torah écrite aussi. Et comme la Rambam l'explique, c'est pas à la fin ils ont rejeté la Torah écrite, mais au début ils ont rejeté la Torah écrite. La façon de vouloir faire une séparation entre la Torah écrite et la Torah orale, c'est une façon de refuser le judaïsme. Le christianisme a commencé avec ça. Pour le mouvement de christianisme qui est marqué dans la Gemara, ça a commencé avec dire, avec les Tsoukim, on n'accepte pas la Torah orale. Et après, bien sûr, ils ont refusé la Torah écrite aussi. Pour les enfants, que c'est toute la Torah écrite aussi. C'est une façon de dire, je veux me façonner en religion à ma façon. C'est vraiment comme la Rambam dit que pas toujours on veut tout dire. Alors à l'époque de la Gemara, il existait des sectes, même s'ils étaient très minoritaires chez les juifs. Le peuple était toujours attaché, évidemment, à la Torah écrite, à la Torah orale. Tous les époques. La Torah orale est la transmission philosophique et pratique du judaïsme. Les juifs, ils ont appliqué la Torah toujours dans les normes de la Torah écrite, la Torah orale. La soukha était toujours fabriquée, comme nous faisons la soukha. Le etrog était toujours l'etrog que nous avons dans la Torah, c'est marqué prier Hadar. Mais qu'est-ce que c'est l'etrog? Tout le monde sait que c'est l'etrog. Parce que Moshe Rabbeinu nous a montré un etrog. La matzah, qu'est-ce que c'est manger matzah? Moshe Rabbeinu a mangé la matzah. On a toujours mangé. La pratique de la Torah écrite était toujours ensemble avec la Torah orale. Les juifs, ils faisaient Kriyat Shema le matin, faisaient Kriyat Shema le soir, on savait qu'est-ce que c'est les Tfilim, etc. Toujours, la pratique était évidemment basée sur un enseignement qui était transmis oral. Alors je reviens à la question, pourquoi pas tout était écrit? D'abord parce que c'est infini. C'est infini. La Havdil chez les Goyim. Il y a un code civil, il y a des lois, mais pas tout est écrit. Après, il y a des jurisprudences tous les jours, on ne peut pas tout écrire, sinon ça donne des bibliothèques à l'infini. Il y a des livres de base, et après il y a des méfarchives, mais après il y a des questions, etc., etc. Mais d'abord, il y a des livres de base, mais pas tout est écrit dans le livre de base. On fait le permis, il y a un livre, maintenant il y a après encore d'autres livres pour des différentes choses, etc., pour des questions et des litiges, etc. Alors on ne peut pas tout écrire. Maintenant on aurait pu dire, alors on n'écrit rien, on transmet tout oral. Mais le génie est tout oral. On peut oublier quelque chose. C'est mieux d'avoir un texte qu'on peut lire. Et un texte qui contient tout. et qu'on peut retrouver, ce qu'on transmet, on peut le retrouver après. C'est beaucoup plus palpable. Le Shabbat à la Shoul, on lit le texte. Après, l'arabe, il fait un drachar. Il enseigne des détails de la loi, mais après, on trouve ça dans la Torah. On ne peut rien ajouter. On ne peut pas ajouter une mitzvah. On ne peut pas ajouter une nouvelle notion, parce qu'on a ce texte. Il n'y a pas plus, pas moins que ce texte. Mais la Torah a été transmise de génération en génération. Il n'y a pas que la Torah que Moshe Rabbeinu a écrit. Il y a aussi tout le Tanakh. On regarde le Tanakh. Le Tanakh couvre une époque depuis Adam Arishon jusqu'à la construction du deuxième Knesset. Alors le Tanakh nous raconte grosso modo les points importants de l'histoire. Automatiquement, pas seulement les points historiques, Adam Arishon, la Maboul, Moshe Rabbeinu, Mitzrayim, etc. Bien sûr, dans cette histoire que la Torah nous raconte, il y a dedans toute la philosophie juive aussi. Ça s'appelle en vérité pas philosophie juive. Philosophie juive, c'est pas très exact, parce que les juifs ne sont pas des philosophes. On n'a pas inventé une philosophie. On n'a pas inventé les idées. Les juifs n'ont pas inventé les idées. C'est Akadosh Baruch Hu, le créateur du judaïsme. La philosophie, c'est la philosophie d'Akadosh Baruch Hu, qui nous a donné des règles, et après, nous façonnons notre tête d'après ces règles qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit. Et le Tanakh, ce qui est écrit, ça couvre d'une façon très courte. On peut lire le Tanakh dans une semaine, on a tout lu. Avec ça, on couvre 3400 ans de l'histoire, avec les points d'ancrage très importants. Mais évidemment, le Tanakh n'est pas venu pour nous enseigner chaque détail de la loi. C'est pour ça, malheureusement, les apicorses, spécialement au 19e siècle, il y avait une école en Allemagne. On les appelle l'école de la critique biblique. Ils ont voulu faire à tout prix un coup d'État contre le peuple juif, contre la religion juive, et automatiquement, physiquement contre le peuple juif aussi. Même le mouvement d'Hitler, d'éliminer les juifs, il fallait éliminer toute la conception qu'est-ce que c'est juif, la Torah des juifs. La guerre d'Hitler n'était pas qu'une guerre physique, une guerre contre la religion juive, contre la Torah des juifs. Et le mouvement de Hitler n'est pas venu comme ça. Comme ça, comme un ciel qui est bleu, et là, c'est foudre et c'est faux. C'est un développement qui a duré des siècles. Un développement qui dure depuis le début du christianisme. C'est un développement qui durait depuis Rousseau et depuis toute la bande Voltaire et compagnie qui voulait à tout prix détruire la tradition. Et spécialement les entre guillemets penseurs de la critique biblique de l'école en Allemagne pour détruire la Torah orale et la Torah écrite en disant qu'il y a deux sortes de judaïsme. Il y a un judaïsme mosaïque, on ne sait pas d'où ça vient, en vérité il croyait rien du tout, enfin il croit un peu, c'est faux, il croyait rien du tout. Et après, il y a un Torah oral qui était inventé. Ce sont des thèses vieux comme le monde. Déjà, le premier de celui qui tenait ces thèses, c'était le cousin de Moshe, comment ça s'appelait déjà?
Korach.
Korach, oui, Korach. Lui, il a déjà dit que Moshe Rabbeinu l'invente un peu. Korach, c'était le premier libéral qui est venu. Un juif libéraux, c'était Korach. Quoi? Contestataire. Il a dit Moshe Rabbeinu, il a inventé, donné à son frère la Kavuna. Tous les mouvements libéraux qui existent, qui commencent à culminer au 19e siècle et qui continuent au 20e siècle, selon aujourd'hui, malheureusement, il y a une partie qui n'est pas religieuse. Soit parce qu'ils ne connaissent rien, soit parce qu'ils sont influencés par tous ces mouvements libéraux du 19e siècle et qui ont créé une idée. Il existe Talmud, elle existe, le canard. Et ces deux livres sont deux livres qui ne tournent pas, qui ne sont pas ensemble. Et que les prophètes, ils avaient des belles idées. Ah oui, juste défendre l'orgueil, l'orphelin, et la justice sociale, et la bonté. Mais que ça s'est moqué, et que ça, pour faire sa Shabbat, et ça, on ne trouve pas ça dans un Isaïe, on ne trouve pas ça. Comme ça, il parle. Comme les chrétiens, ils croient qu'il y a dans le judaïsme des techniciens de la loi, et il y a les grands prophètes, les grandes idées de la liberté, de la... Bien sûr, ça... Moshe Rabbeinu, c'est un technicien de la loi. Qui a voué l'aï ham, l'idroch et le kim, voradat, et l'aimé trouk et le kim et torotat, Shmuel Anaris, un technicien, qui a enseigné la Torah, tous les prophètes. Évidemment, Yeshaya Hanavi était le chef du Sanhedrin. Yirmiya Hanavi était le chef du Sanhedrin. Quand on regarde bien le Tanakh sans tricher, on trouve toute la Torah orale aussi dans le Tanakh. Et les Juifs le connaissaient toujours. Yirmiya Hanavi, quand il dit aux Juifs, mais on n'a pas le droit de porter dans la rue de Shabbat, mais pourquoi vous portez? Mais Yerushalayim était entouré par un mur. Alors je suis pas yachid, on avait le droit de porter, mais la Torah. Dans l'ami de Rabbanan, on n'a pas le droit de porter, parce qu'il y avait Takana de Shlomo HaMelech de Hérouv. On ne pouvait pas faire un Hérouv, Yerushalayim. Toutes les dîmes de Rabbanan, ils se trouvent évidemment dans le Tanakh. Quand on regarde bien un livre d'un grand rabbe en Allemagne, et au début du XXe siècle, il a encore vécu, il s'appelait Rabbi Yitzhak Halevi. Yitzhak Halevi. Il a écrit un livre très très important, Dorot Rishonim, où il a détruit la critique biblique. Aussi Rabbi David Hoffman, qui était un rabbe à Berlin au XIXe siècle, il a détruit la critique biblique. Ce sont des livres très très importants. Il démontre le mensonge et comment toute la critique biblique est basée sur tourner les gens au bourri. Avec des questions faux, c'est-à-dire une question, on ne regarde pas la fin du phrase, on ne regarde pas ce qui marche dessus. Cacher toutes les connaissances, poser des questions et dire voilà donc c'est faux. Et on remonte pas qu'ils ont démontré, c'est des erreurs très très importantes. Et la Torah chez Birtav, la Torah chez Balpé, où semble comment ça va. Et Rabbi de Mecklenburg, et un mot qui est écrit, la Kabbalah, Drush, la Kabbalah. Beaucoup, beaucoup de livres, le Malvim aussi. Le Mahasé, toute la Gemara, il faut savoir un Yesod, et c'est très important. Les gens qui critiquent la Torah, et il y en a beaucoup comme ça. Et vous allez dans les universités, et chez les universitaires, c'est une horreur. Quand j'entends un universitaire parler du judaïsme, je me suis dit, mieux qu'il parle du bouddhisme. Pourquoi il parle du bouddhisme? Parce que lui, il connaît du judaïsme, la même chose que moi, je connais du bouddhisme. Il dit rien. Mais ils font semblant, ils tournent les gens au bouddhisme, ils entendent des choses tragiques. Demain, après tous les gens qui écrivent la Torah, ils ne se font pas la chose très difficile. Ils prennent toute la Gemara, ils regardent les questions que la Gemara demande, et ils cachent la réponse, et après ils font des animaux. Les questions qui existent, la Barbanel pose sur chaque chapitre de Kumash, il pose d'abord 25 questions, et après ils commencent en profondeur à étudier le sujet, et après c'est génial comment tout le monde. Ces gens-là, ils ont pris, Spinoza, il a écrit un horreur, un danger public, son livre, il s'appelle Traité de théologie et politique, a créé un livre, je tout le suite, Spinoza, c'est d'A jusqu'à Z, une ignorance, une malhonnêteté intellectuelle, où il veut essayer de détruire la Torah d'A jusqu'à Z. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la Barbanelle sur le Tanakh, il pose 25 questions sur un chapitre, il pose toutes les 25 questions, mais à la place d'apporter toute la réponse géniale des Barbanelles, il ne fait que... Donc, on voit bien que c'est des hommes qui ont écrit ce texte. On voit bien que le texte est intéressant. Et ça pousse sur l'ignorance. Les juifs libéraux, et puis le mouvement épicorien, toutes les hérésies que le peuple juif a fabriqué, tellement beaucoup d'hérésies, je veux dire, parmi les juifs, il y avait des hérésies qu'ils ont fabriquées, et des fois c'était des purs ignorants, et des fois c'était malheureusement des grosses têtes qui ont disjoncté, des fois il y avait des bons rabbanim. Ce n'est pas des bons rabbanim, des érudits, mais il manquait un cadre, il manquait quelque chose dans le comportement, comme l'autre qui a fait le christianisme, il était demandeur. Je ne sais pas ce qui est arrivé, il lui manquait un cadre, ils ont voulu détruire le judaïsme. Ça existe malheureusement souvent, c'est pour ça que la Gemara raconte qu'il y a beaucoup de rabbins qui disent qu'il ne faut pas laisser étudier chacun. Aujourd'hui, il ne faut pas les laisser étudier, parce que Dieu il pleure sur ceux qui peuvent étudier et n'étudient pas, il pleure sur ceux qui ne peuvent pas étudier et n'étudient pas. C'est possible pour le deuxième, il pleure encore plus. Pour contredire et pour prouver la vérité de la Torah, il n'y a pas mieux qu'à approfondir la Torah écrite et la Torah orale. Approfondir. Prendre un texte et chercher et poser des questions et trouver la réponse. Une fois, un goy m'a écrit un email. Il m'a dit, dites-moi, c'est un goy très, très correct, très droit et sans arrière-pensée. Il dit, mais à un texte, c'est sûr qu'il faut l'interpréter le texte. Mais on peut faire dire un texte à la fin tout ce qu'on veut. Il n'est pas marqué d'où la Torah. Donc les rabbins, ils veulent bien, il faut donner un sens à ce texte. Mais on peut lui faire dire ce qu'on veut. Alors il m'a donné un exemple. Voilà. Il m'a dit, les 7 mitzvot béné noir, les 7 mitzvot béné noir. Les rabbins, ils l'ont trouvé dans une phrase dans Parshat Bereshit. Il me dit, mais ça ne se trouve pas du tout dans cette phrase. Les rabbins, ils voulaient les chérisoles noirs, donc ils l'ont mis dedans, mais ça ne se trouve pas dedans. Je lui ai répondu à un anglais pour expliquer comment tous les chérisoles noirs se trouvent dans cette phrase à la fin de la semaine. Je ne savais pas que ça fonctionne comme ça, les Talmuds. Il a été épaté par Hachim, mais c'est un goyon, et pour ça il était épaté. Il aurait été perdu, il aurait dit. Mais le goy, même si c'est vrai ce que vous dites, ça n'engage pas de faire des mitzvot. Donc il peut être honnête, mais les juifs tordus, si c'est vrai, il est obligé de faire des mitzvot, donc il ne veut pas que ça frappe. Donc il va dire même pour dire oui, pour détruire ce qu'on dit, pour dire que ce n'est pas la bonne chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les rabbins ils peuvent dire ce qu'ils veulent dire, pas du tout. Il n'y a rien dans la Gemara, chat dans le Chumash, on dit ce qu'on veut, puis le contraire, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Chaque Mahamar, chaque Halakha qui est basé sur un pasuk, c'est après une étude, ce mot, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il veut dire ça, ou ça, ou ça? Il y a des propositions. Et les différentes propositions, après les propositions, ils tombent jusqu'on arrive à la vérité. Chaque halakha de la Torah orale qui est prouvée du Chumash, c'est après une étude, on arrive. Ça, c'est l'explication. On ne dit pas ce qu'on veut. On dit ce qu'on est obligé de dire d'après le langage, et d'après la logique, et d'après le sujet, et d'après l'idée globale qui est dedans, et après la philosophie dans ce sujet, et des preuves d'autres psukim avec une étude. Donc ça c'est l'interprétation. On ne peut pas dire ce qu'on veut. On dit Shabbat, il ne faut pas travailler Shabbat. Quels sont les travaux de Shabbat? C'est une question. Est-ce que c'est après le poids? Est-ce que c'est d'après? On peut dire beaucoup de théories, c'est vrai. Mais après il faut chercher dans le texte. La Torah nous dit, fabriquez le Mishkan, mais ne le fabriquez pas Shabbat. Et la Torah nous guide. Il faut faire le Mishkan, mais pas Shabbat. Ici la Torah nous dit. Bon, donc si tu fais le Mishkan, arrête de faire le Mishkan, donc il faut prendre des choses qu'on a besoin de fabriquer pour le Mishkan, etc., etc. Prends un petit exemple, mais c'est beaucoup plus long que ça. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Plus que ça. La Torah orale n'est pas passée par une personne, mais par des milliers de chachamim. Le peuple juif Baruch Hashem, ce qui dit le contraire, le peuple juif a été toujours béni, Maroc Hashem, pas toujours par la richesse, et pas toujours par des gens très forts et des guerriers super, non pas toujours, mais toujours par des génies et des grosses têtes, des grands érudits qui donnaient jour et nuit et toute la vie pour comprendre ce texte. Dans chaque génération, ça a été comme ça. Le peuple juif a eu des Chachmei Israël, Bechol Dor Vador, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui, qui connaissait tous les textes, connaissait par cœur et étudiait et approfondissait dans chaque génération, ça a été comme ça. Et chaque racham a vérifié l'autre racham. On ne peut pas dire ce qu'on veut. Un racham qui dit quelque chose tordu, on le vérifie. Et pas seulement sur sa connaissance, aussi sur son comportement moral. Un racham qui ne se comporte pas moralement, il était rejeté. On le condamnait, il était mis dehors. Même si c'était un très grand, même des plus grands rabbinim, quand ils ont dit quelque chose qui sortait, on a dit, mettez-vous à la maison, monsieur. Rabbi Eliezer, Rabbi Gamliel était destitué parce qu'il n'a trois fois pas respecté Rabbi Yeshua. On a dit, on vous destitue, monsieur. Rabbi Eliezer était mis au chéret parce qu'une fois, il voulait s'imposer contre la majorité. Il a dit, j'ai raison. Quand la majorité dit, vous n'avez pas raison, il a dit, il faut que les juifs font comme moi. On a dit, au chéret, monsieur, ça marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Elisha Hanavi, il avait un serviteur, Gehazit Yangaron. Le type, il est devenu khatsouf, il a dit tu sors. Il a maudit, il est devenu lépreux, il a fait après une église, il a fait une hérésie à Damas. C'est une catastrophe, mais chacun y vérifie l'autre. La Torah orale a été transmise par des gens qui avaient un comportement très hautement perfectionné, avec une grande sagesse, et comme ça, ça a été transmise dans des conditions qui ne sont pas des conditions sous menace de mort. Et pas longtemps en Russie. En Russie, au début du communisme, on était en danger de mort. Il y avait un juif qui est dictateur pas longtemps. Vous le connaissez, c'est un juif de Moscou. Et bien, c'est un chacham génial, un mathématicien génial aussi. Et il a étudié dans la cave sur les communistes, et les Lubavitch, que vous demandez, les vieux Lubavitch, comment, sous danger de mort, ils ont transmis la Torah. Toujours les juifs, ils ont fait comme ça. Sans interruption. Tout ce que les apicorsimes veulent croire, qu'il y avait des interruptions dans la transmission de la Torah. Ce qu'elle a dit aujourd'hui, la folie des Arabes qui disent que la Torah de Moshe n'est pas ce que les juifs ils ont aujourd'hui, qu'il y avait une interruption et après la Torah a été changée, tout ça, c'est un démarrage, tu connais rien. Ils connaissent rien de l'histoire juive, c'est là on parle même pas. Parler au moins avec les libéraux des catholiques, ils ont un peu une connaissance, un peu d'intérêt. Les autres sont hors jeu. Mais ils récupèrent tout. Aujourd'hui, il y a une guerre mondiale contre la transmission de la Torah écrite et la Torah orale, d'une guerre idéologique. Et après dessus, on base bien sûr la Torah, mais une guerre physique aussi, jusqu'au bout, ils veulent faire ce qu'ils veulent faire avec les juifs. Toujours. Il y avait une interruption dans la transmission de la Torah, donc ça donnait lieu à une possibilité d'un trafic, d'un changement. Tout ça, ça c'est faux. C'est sans interruption. Depuis Moshe Rabbeinu, il a transmis Shoftim, Nevi'im, Anchekneset, Gdola, Tanaïm, Amoraïm, Rechetim, Avenim, jusqu'à aujourd'hui. Il n'y avait jamais eu la moindre faille dans la transmission. Et ça... Ça c'est un des dîmes à l'animal, que quoi, que j'autre Torah, il y a des nous, il y a un étonnant, le Moshe Rabbeinu, à la base, je vais arrêter, je vais...